Messieurs, je me dépêche d'aller avant d'aller au match à venir parce que Hugues devra nous quitter un peu plus tôt aujourd'hui. J'invite à entrer dans la conversation Louis-Philippe Trudeau qui travaille avec nous. Allô, Louis-Philippe.
Salut, les gars.
Louis-Philippe, qui est un chef de pupitre à Radio-Canada, mais il travaille un peu dans les coulisses avec nous. Il aime nous donner son input. C'est un gars très intelligent qui a déjà une bonne expérience des médias. Et c'est aussi le gars de confiance de Hugues Léger. Alors, il avait tout pour se joindre à nous cette semaine pendant l'Omnium Banque Nationale. Merci, Louis-Philippe, de te joindre à nous.
Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi de vous écouter au quotidien. Là. Vos épisodes sont toujours super intéressants, toujours très pertinents. Là. Beaucoup de plaisir à vous.
Tu nous parles comme ça quand tu veux, Louis-Philippe. Moi, j'ai bien hâte que tu fasses cette chronique-là parce que si on t'a invité, c'est pour que tu nous fasses un petit historique des commanditaires et un petit historique du tournoi, Louis-Philippe. Et quoi de mieux qu'une édition où on change de commanditaire pour en parler? Alors, tu nous proposes un petit retour dans le temps avec l'historique des noms et des commanditaires de l'Omnium Banque Nationale LP.
Oui, c'est ça. Bien, en fait, tu l'as dit, c'était mon amorce. Les gars, vous le savez, les internationaux de tennis Canada ont changé de nom cette année. Le tournoi s'appelle l'Omnium Banque Nationale, je ne vous apprends rien. Mais comme moi, je suis sûr que vous vous méprenez encore à l'appeler la Coupe Rogers. On va finir par s'y habituer, comme les partisans de tennis du Québec et du Canada sont habitués au dernier changement de nom. Parce que c'est ça, il y en a eu plusieurs. Et ce n'est pas tout le monde qui sait que le tournoi n'existerait fort probablement pas si ce n'était de la contribution et du soutien d'un fabricant de cigarettes. Oui, un cigarettier, aussi surprenant que ça puisse paraître aujourd'hui, mais il faut aussi se dire que c'était à une autre époque. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose un petit retour dans le temps.
Et justement, tu parlais des cigarettiers, il y a eu Players, les internationaux matinés. Aujourd'hui, ça fait sourciller d'une certaine manière. Là, est-ce que tu vas aller plus loin sur ce sujet-là?
Oui, c'est ça. En fait, je reviens un petit peu avant, là, c'est ça. Il faut savoir que les internationaux de tennis du Canada, c'est vraiment l'un des plus vieux tournois au monde. La première édition chez les hommes a eu lieu, imaginez, il y a 140 ans. En 1881, et 11 ans plus tard chez les femmes, en 1892, du côté féminin, là, c'est même le troisième plus vieux tournoi majeur après Wimbledon, le US Open, c'est quand même pas rien. Donc, troisième plus vieux, mais c'est ça, le tournoi n'a pas toujours eu la renommée internationale qu'il a aujourd'hui. Il va falloir attendre 100 ans après sa création, jusqu'en 1980, pour qu'il acquiert une dimension mondiale. Parce qu'avant 1980, c'est ça, le tournoi était présenté dans des clubs privés de Toronto, de Montréal, de Vancouver, de Québec, Niagara Falls, avant d'être principalement disputé en Toronto. Mais en 1980, c'est ça, il va y avoir un événement qui va changer à jamais le visage du tournoi et va lui donner l'impulsion nécessaire vraiment, là, les gars, pour qu'il soit parmi les plus grands tournois au monde. Et c'est ce que j'ai dit, j'ai nommé l'argent du tabac. Parce que avant 1980, la loi fédérale, elle interdisait, puis d'ailleurs, elle interdit toujours, là, la publicité de cigarettes dans les médias, puis elle ne prévoyait rien en ce qui a trait aux bâtiments et aux événements. Puis c'est comme ça qu'il est entré dans le portrait Imperial Tobacco, le chef de file de l'industrie au pays à l'époque. Et donc, en 1980, le cigarettier, il achète les droits des commandites du tournoi, et l'avenir du tennis canadien là, se joue littéralement dans les bureaux du patron de l'entreprise, Paul Paré. Parce que avant de conclure la transaction, M. Paris va poser une condition qui va être déterminante pour la suite des choses. Le tournoi doit avoir lieu au Québec. Et c'est d'ailleurs de là que nous vient l'alternance des tournois masculins et féminins entre Toronto et Montréal. Montréal d'ailleurs qui était puis qui est toujours hein, le siège social d'Imperial Tobacco. Alors voilà, au départ le tournoi est nommé Omnium Dumaurier. Après les cigarettes Dumaurier, qui était vraiment la marque la plus vendue là, au Canada à l'époque, avec environ 30% du marché. Et là, comme tu viens de le dire, c'est ça. Donc, selon les besoins marketing du fabricant, le tournoi s'est aussi appelé International Players, Challenge Players, Internationaux Matinées. Et ça fait sourciller, parce que vous en conviendrez, là, surtout avec le contexte et la réalité d'aujourd'hui. C'est étonnant qu'un cigarettier devienne le commanditaire principal du tournoi. D'une part, du fait qu'il associe au tabac un sport de haut niveau et l'activité physique, sans trop se soucier, semble-t-il, de l'impact que ça peut avoir sur la santé publique. En même temps, faut se remettre en contexte. Le Québec des années 90 est pas mal emboucané. je vous donne une statistique, en 1994, 35% des 15 ans et plus fumaient, selon Statistique Canada. Puis dans la vingtaine, c'est presque un adulte sur deux. Le problème, c'est que c'était difficile pour Tennis Canada d'envisager de séparer d'Imperial Tobacco parce que le tournoi était très dépendant financièrement. L'exemple le plus concret, là, c'est que jusqu'en 1995, vous savez, encore une fois, je vous apprends rien, le tournoi, il était présenté au Stade Jarry, au premier domicile des Expos. Mais en 96, là, la nécessité là, de se doter d'une installation d'envergure se fait de plus en plus grande et pour que le tournoi se maintienne parmi l'élite. Là. Donc, le cigarettier va aider Tennis Canada à inaugurer un nouvel amphithéâtre, le Stade du Maurier, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Stade IGA. Et c'est vraiment un investissement qui va être un point tournant là, dans l'histoire du tournoi et qui va lui permettre de monter d'un cran en termes de capacité, de visibilité et par conséquent de revenus publicitaires. Là, pour vous donner un ordre de grandeur, là, de 8000 spectateurs sur l'ensemble de la semaine en 1980, le tournoi est passé à plus de 220 000 spectateurs en 2019, l'édition juste avant la pandémie. Et là, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, ben j'allais ajouter à ta statistique. D'ailleurs, chez les femmes, je pense que c'est le tournoi le plus achalandé au monde sur les tournois d'une semaine, d'ailleurs.
Oui.
À Montréal.
C'est juste. Il faut dire qu'Imperial Tobacco, là, il ménage pas du tout les points de promotion. Hein. Littéralement, à l'époque, là, littéralement, tout est flanqué des logos et des couleurs du cigarettier. Par exemple, les costumes des centaines de bénévoles portent les noms et les couleurs des paquets. Bleu et blanc pour Players, jaune et brun pour Matinée, rouge et noir pour Dumaurier. Même les jeunes chasseurs de balles, des mineurs, portent les noms et les couleurs des marques de cigarettes. Et ça s'étend jusqu'au décor et aux activations du site. Puis les gars, puis je pense qu'eux, ils pourraient en parler, ça rapporte, parce qu'en réalité, dans le grand public, il y a très peu de gens qui pourraient nommer le ou la gagnante de telle ou telle édition, mais presque tous auront retenu le nom du stade Dumaurier.
Oui, ben écoute, je suis tellement content que tu abordes ce sujet-là parce que c'est une histoire qui est connue des gens de mon âge, un peu moins des plus jeunes aujourd'hui, mais effectivement la contribution d'Imperial Tobacco au tennis canadien est une valeur énorme. J'ai été employé d'Imperial Tobacco, j'étais directeur marketing de Dumaurier, je connais bien l'histoire de la relation entre Imperial et le tournoi. Il y avait un gestionnaire attitré à temps plein chez Imperial Tobacco à la gestion du tournoi. Il faut se rappeler, par contre, que dans les années 70-80, on vivait dans un autre monde aussi. Là. Les commandites de cigarettes dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau culturel avec le festival de jazz, par exemple, qui était commandité par Dumaurier aussi. La Formule 1 avec Marlboro pendant des années. Là, qui
strike, les feux d'artifice.
Les feux d'artifice Benson & Hedges, exactement. Donc, c'était une autre époque. Et il faut pas oublier aussi, bon, de nos yeux de 2021, on voit la cigarette très différemment. Je parlais de normalisation du pari sportif plutôt. On a assisté plutôt à une dénormalisation du tabac depuis des décennies, et ce qui est tout à fait légitime, je dirais. Mais à cette époque-là, c'était un monde différent. Et Dumaurier, Players, Matinée, les budgets marketing de ces marques-là au niveau des commandites ont fait qu'on a le tournoi qu'on aime tant aujourd'hui, qu'il existe aujourd'hui. Donc, leur contribution est quand même majeure. Et si vous parlez à Eugène Lapierre, à Richard Legendre, qu'on va inviter cette semaine, ils auront des choses à dire sur le sujet aussi. Donc, ces commanditaires-là ont été déterminants pour la réussite du tournoi au fil des années. Et je pense qu'on n'a pas à être honteux de ce qui s'est passé durant ces années-là. C'était une autre époque, tout simplement. Et on faisait référence justement aux internationaux players. Je m'en vais aux players, imagine. On disait même plus le nom du tournoi. On disait je m'en vais aux players ou aux Dumaurier ou à l'Omnium Dumaurier. Et voilà, le tournoi s'est bâti comme ça. Et on a un très beau stade de calibre mondial maintenant aussi grâce à la contribution des cigarettiers. Mais on vit dans un autre monde aujourd'hui, c'est évident.
Mais je me souviens, c'est pas la première fois qu'on parle de ça. Et Nico avait apporté un bon point il y a quelques semaines ou peut-être quelques mois quand on avait abordé le sujet. Peut-être que les boissons énergisantes, te souviens-tu, Nico, c'est toi qui avais dit ça, Red Bull, etc., seront les prochains à tomber au niveau des commanditaires. Et ils sont partout. Là, quand tu regardes Red Bull, par exemple, ils sont partout dans le monde du sport particulièrement en termes de commandites. Alors, ils seront peut-être que dans 20 ans, on aurait exactement la même chronique, mais au lieu de Dumouriez, Benson & Hedges et Players, on va parler de Red Bull, Monster, etc. Et LP pourrait faire exactement la même chronique puis changer les noms. Bon, et pour en revenir à LP et son historique, bon, évidemment, là, aujourd'hui, on sait, ça semble d'une évidence, comme tu disais, on a laissé tomber les cigarettiers, il a fallu passer à autre chose, LP.
C'est ça, c'est finalement l'année 2003 qui va avoir raison du partenariat. Là. Cette année-là, Québec interdit toute commandite par des marques de cigarettes et là, ça force le tournoi à se trouver un nouveau commanditaire. Et Rogers devient alors le commanditaire principal et le stade Dumouriez est désigné stade Uniprix avec la pharmacie qui entre également là, dans le bal publicitaire en 2004. Il faut savoir que ces nouveaux partenariats là, avec Rogers et Uniprix viennent avec d'importantes rénovations. Dès 2007, des investissements majeurs au stade vont lui permettre de devenir le premier centre national d'entraînement de l'histoire du tennis canadien. Et 3 ans plus tard, devant l'essor là, du tennis au Canada, puis les résultats sans précédent là, de nos joueurs canadiens, le stade Uniprix est agrandi, mais cette fois en hauteur. Donc, ce sont les quatre nouveaux terrains de terre battue qui s'ajoutent aux 24 terrains de surface dure du site. Et tout ça, là, maintenant, nous amène, c'est ça, donc à février de cette année, Rogers et Banque Nationale, les deux grands partenaires du tournoi, vont inverser leur rôle. Banque Nationale devient donc le commanditaire en titre et Rogers le commanditaire présentateur. Une entente, là, c'est ça, pour des technicalités, mais de 10 ans avec Banque Nationale et de 7 ans avec Rogers. Et c'est un changement vraiment qui tombe à point pour Tennis Canada, puisque la Banque Nationale va permettre à la Fédération de se relever de la pandémie, parce qu'il ne faut pas oublier que ces programmes et tournois ont été à l'arrêt pendant plus d'un an. Donc, comme je vous dis, c'est bien accueilli le Tennis Canada. Donc, voilà pour la petite histoire des commandites des internationaux de tennis du Canada. Et comme je le disais en ouverture, c'est drôle à dire, mais c'est un cigarettier qui a mis la table pour la génération dorée qu'on va performer aujourd'hui, à savoir Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Leila Fernandez, Bianca Andreescu et compagnie.
Je peux rajouter un petit truc, excuse-moi Alex, et dans les sondages d'évaluation des joueurs et des joueuses, année après année, durant les années de commandite d'Imperial Tobacco, c'était le tournoi préféré des joueurs et des joueuses hors Grand Chelem sur le circuit ATP WTA parce que les joueurs étaient tellement bien reçus, il y avait des moyens derrière, donc les joueurs appréciaient leur passage à Montréal.
Avant que je vous laisse aller tous les deux, LP et Hugues, à quel point c'est déterminant pour une image de marque, une commandite de ce genre-là? Parce qu'on paye des gros montants dans le monde du sport et ça doit rapporter parce qu'on paye des gros montants.
Oui, on en a souvent parlé. Si le mariage fait du sens au niveau des valeurs des marques, donc de l'événement commandité et de la marque, ça peut être génial. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est déterminant, c'est la constance. Il faut être là longtemps. Tu fais pas un in and out sur une commandite. Là. Regardez Banque Nationale et Rogers, ils inversent, mais c'est les deux marques qu'on voit depuis plusieurs années. Dumouriez avec le tennis, avec le jazz, les gens les nomment encore aujourd'hui parce qu'ils ont été là année après année. La Batte Bleue pour le Festival Juste pour Rire, qui n'est plus commanditaire de Juste pour Rire. On parle encore de la Batte Bleue pour Festival Juste pour Rire parce qu'il y avait une constance. Donc oui, c'est pour une marque, si le choix de l'événement est bon, ça peut être très, très rentable en termes d'appréciation de la marque et d'adhésion à une marque par les consommateurs.
Mais d'ailleurs, là, on est habitué, mais nous, ça nous a pris quand même un petit moment là, pour que se mette Omnium Banque Nationale dans la bouche et que ça devienne un réflexe et que ça sorte. Alors, c'est la preuve, LP, que ça fonctionne. Ce genre de commandite-là. Excellent travail, LP. Je suis très content. On va publier ta chronique à part sur notre version audio et sur nos médias sociaux. Tu es super d'avoir préparé ça. C'était excellent. Je rappelle que tu es éditeur en chef aussi de Victoire Média, d'ailleurs qui produit en partie le podcast et qui est la compagnie de Hugues. LP, regarde, avant qu'on te laisse aller, veux-tu faire une petite plug pour Victoire? Qu'est-ce que c'est, Victoire? Je le demande à Hugues d'habitude, je le demande à toi aujourd'hui.
Ben, en gros, c'est un projet qui était consacré au soccer au départ parce que on voyait venir la fenêtre de 2026, la Coupe du Monde qui se disputera donc au Canada, mais aussi aux États-Unis puis au Mexique. Et on est tous des grands fans, voilà, de soccer. Puis il y a une effervescence dans l'air en ce moment entourant l'équipe. J'allais dire masculine, mais maintenant beaucoup féminine avec cette médaille d'or là que nos Canadiennes ont ramené au pays. Et du même coup, on a vu, c'est ça, avec ces pépites qu'on a du côté du tennis canadien. Je les ai nommées tout à l'heure. On s'est dit, il y a quelque chose à faire au tennis. Donc là, maintenant, Victoire, c'est plus comme une marque parapluie où d'un côté, donc, on a un volet axé sur le soccer, mais là, de plus en plus, et on a un volet axé sur le tennis. Donc, c'est deux sports dont dans l'équipe, on est tous de très grands fans.
Exact. Victoire Média se diversifie tranquillement. Merci beaucoup, LP. Super. Hugues, on te laisse aller aussi, puisque tu brasses des grosses affaires. Merci, les gars. On laisse aller le duo Victoire Média. Et puis moi, je vais continuer les prédictions avec Nicolas Richard.